Tamani, voici nos informations en français.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim menace prochainement de s'attaquer à Bamako et à d'autres villes maliennes. Le numéro 2 de la Katiba du Massina, dans une vidéo, a déclaré qu'ils n'auront pas de répit jusqu'à l'instauration de la charia. Des déclarations difficilement applicables selon des spécialistes en sécurité. Les résultats du diplôme d'études fondamentales d'EIF sont publiés ce vendredi 29 juillet 2022 par le ministère de l'Éducation nationale. Le taux d'admission est de près de 48%, soit une chute de 20,81% par rapport à la session précédente. Vers la création d'une force anti-putsch, l'annonce a été faite par le nouveau chef de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Oumarou Sissoko Embalo, ce jeudi 28 juillet 2022. C'était à l'occasion d'une tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique. Mesdames et messieurs, c'était là les titres de ce journal. Dans un instant, le développement. Bonsoir à tous. À la présentation, Hamsetou Touré. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jessim, a proféré ce jeudi des menaces d'attaques terroristes à Bamako et dans d'autres grandes villes du Mali. Toutefois, l'état-major général des armées maliennes appelle les observateurs à ne pas se laisser tromper par les récentes gesticulations d'un adversaire en perte de vitesse. Les détails avec Khalifa Goïta.
Mahmoud Bari alias Abou Yahia, numéro 2 de la Katiba du Massina, affirme qu'il n'y aura pas de répit tant que le Mali ne retournera pas à la charia ou ne l'appliquera pas. Selon lui, les Moudjahidines sont déployés dans toutes les périphéries de Bamako. Ils opéreront de jour comme de nuit à Bamako et dans toutes les villes maliennes, ajoute-t-il. À la veille de cette déclaration, l'état-major général des armées maliennes indiquait que ces groupes armés démontrent en réalité leur affaiblissement global en procédant à des actes désespérés d'attaque kamikaze, des actions sur les populations civiles et des poses d'engins explosifs improvisés. Il faut souligner que ces différentes déclarations surviennent après des attaques contre les forces armées maliennes, ayant occasionné la mort de 15 soldats, 3 civils et 48 terroristes. Ces attaques ont eu lieu mercredi dernier dans les localités de Sokolo, région de Ségou et Kalumba, région de Nara. Vendredi 22 juillet, une autre attaque terroriste a été perpétrée contre le camp militaire de Kati. Le bilan officiel indique un militaire et 7 terroristes morts.
L'hypothèse du blocus sur Bamako est plus que nulle. Cependant, des attaques sporadiques sont possibles, explique Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires. Selon lui, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a enregistré ces derniers temps d'énormes pertes, d'où cette probabilité de voir désormais les villes et les populations civiles comme des cibles privilégiées, affirme-t-il. Ali Tunkara est au micro de Imrane Kilumaïga.
Lorsque ces groupes sont en difficulté, ils chercheraient à tout bout de champ, non seulement de démontrer leur efficacité par des attaques symboliques, en vue de délégitimer l'élite politique au pouvoir. Ces différentes hypothèses de s'attaquer à des centres urbains, d'imposer un blocus sur tout Bamako et d'y appliquer la charia, sont des hypothèses, entre autres, qui pourraient être avancées, mais difficilement au regard des pertes subies par ces groupes, on pourrait arriver à ce stade quand on analyse de façon objective les dynamiques conflictuelles au Mali. Certes, des attaques sporadiques pourraient être perpétrées ça et là, mais vouloir prétendre à asseoir une gouvernance sur une ville donnée comme Bamako, une telle hypothèse demeure très marginale.
Les leaders religieux musulmans ont organisé ce vendredi des prières et bénédictions collectives pour la paix et la stabilité au Mali. Suite à l'appel du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, les imams des différentes mosquées ont invité les Maliens à l'union sacrée. Ces prières et bénédictions pour le pays vont se poursuivre dans les églises et lieux de culte traditionnels jusqu'au 31 juillet 2022. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Toujours pas de compromis entre les autorités et certains partis politiques sur la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Lors de la dernière rencontre, jeudi 21 juillet, les deux partis ne se sont pas attendus sur les modalités. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour une autre rencontre. Rappelons que la société civile a opté pour la modalité d'appel à candidature. Je l'annonçais dans les titres, 47,86%, c'est le taux national d'admission au DEF 2022. Ce taux a été communiqué au Conseil des ministres de ce jeudi. Le ministère de l'Éducation nationale vient de proclamer les résultats obtenus sur toute l'étendue du territoire national. Il indique que ce taux est inférieur à plus de 20% de réussite par rapport à la session précédente. Le point avec Draman Maïga.
Les autorités scolaires se félicitent du bon déroulement des épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EEF. Elles saluent aussi la mobilisation de l'administration des syndicats d'enseignement, l'association des parents d'élèves et celle des élèves et étudiants. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale a présenté le bilan de la session de juin 2022. Sur les 223 244 candidats sur l'étendue du territoire, 100 374 sont admis, soit un taux d'admission de près de 48%. Une chute de 20,81% par rapport à la session de 2021, a-t-il dit. Toujours selon cette note, le taux de réussite des filles est de 47,39% et celui des garçons est de 48,31%. Les résultats du DEF qui viennent d'être publiés se sont déroulés du 27 au 29 juin 2022 partout au Mali.
Autre actualité du jour, la situation alimentaire du pays est actuellement difficile, selon Ridouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Interrogé par nos confrères de l'Essor, il confirme qu'une personne sur deux est en insécurité alimentaire au Mali. Cette situation est due, selon le ministre, à la mauvaise pluviométrie de la campagne précédente et à l'insécurité. Pour y faire face, une distribution alimentaire dans toutes les communes du pays est prévue. Mariam Koulibaly.
Une commission composée de chefs de village, de fractions, d'associations de femmes et de jeunes, des membres de la société civile et des ONG procéderont à la distribution de ces vivres. Selon le ministre chargé de la sécurité alimentaire, cette distribution suivra bientôt le recensement des personnes démunies. Redouane Ag Mohamed Ali a indiqué que plus de 34 000 tonnes de vivres seront distribuées entre toutes les communes du pays. La transparence dans la répartition est une exigence des autorités, a-t-il poursuivi. Une table ronde est d'ailleurs prévue dans les mois de septembre et octobre prochains pour collecter les contributions de l'État et de ses partenaires dans le cadre du financement de cette opération de soutien aux populations. Il faut noter que cette campagne de distribution est une activité du Plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, PNR, lancé depuis le 5 juillet à Nioro du Sahel par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
Le nouveau président en exercice de la CEDEAO est attendu à Bamako très prochainement. L'annonce a été faite ce jeudi 28 juillet 2022 par Oumarou Sissoko Ambalo à la faveur d'une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage de créer une force anti-putsch. Oumarou Sissoko Ambalo déclare que la communauté est toujours confrontée à la recrudescence des attaques terroristes et des coups d'État militaires. Moussa Malé Sissoko.
Le tout nouveau président en exercice de la CEDEAO a laissé entendre qu'il se rendra au Mali prochainement. Mais avant, une mission sera conduite par son ministre des Affaires étrangères à Bamako pour rencontrer les autorités de transition, indique Oumarou Sissoko Ambalo, sans préciser les dates de cette visite. Par ailleurs, les dirigeants bissao-guinéens déplorent la recrudescence des coups d'État dans les pays de l'organisation. De 2020 à 2022, l'espace a enregistré trois coups d'État et une tentative tentative de putsch avortée en Guinée-Bissau. Il s'agit du Mali août 2020, Guinée-Conakry septembre 2021 et Burkina Faso janvier 2022. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qualifie ces actes régressifs du point de vue de la démocratie. Ainsi, Oumaro Sissoko Ambalo souligne la possibilité de créer une force anti-putsch, selon lui, pour lutter contre ces actes anticonstitutionnels. Toutefois, il n'a pas donné plus de détails sur le fonctionnement de cette force. Une décision saluée par le président français Emmanuel Macron en tournée africaine dans le pays. Le président Ambalo espère que cette force pourrait permettre de mettre fin aux crises politiques et institutionnelles qui frappent la région.
Le mouvement de la société civile, dénommé Association Initiative pour la Paix et la Réconciliation, s'insurge et dénonce la demande de retrait de la MINUSMA formulée par le mouvement Yereolo, debout sur les remparts. Pour cette association de la société civile de Tombouctou, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a financé beaucoup de projets pour les populations de la région. Intala Ag,
Pour Mohamed Moulay, président de l'association Initiative pour la Paix et la Réconciliation, le retrait de la MINUSMA ne peut être exigé par des individus qui n'ont aucun plan d'action pour les populations après le départ de la mission.
Dans la ville de Tombouctou, dans la région, il y a beaucoup de gens, jeunes qui travaillent au compte de la MINUSMA. Il y a des maçons, des plombiers, tout ce que vous pouvez imaginer. La MINUSMA a financé beaucoup de projets. Ils ont fait des routes, ils ont réaménagé le stade même de Gounda. Ils ont financé aussi la route entre Fassala et Léré.
Cette déclaration est pour le mouvement Yereolo, debout sur les remparts, une sortie ratée et non républicaine. Pour Pape Diallo, membre du mouvement, les raisons qui ont motivé la demande de retrait de l'aménagement sont très claires.
Nous savons exactement ce que nous faisons. Les raisons sont très claires. Notre armée a été accusée de faire certains actes contre les populations civiles. C'était un gros mensonge qui a été fait par l'aménagement. Nous sommes quand même un peu inquiets que cette association de paix et de réconciliation se lève pour dire qu'elle est plutôt d'accord avec l'aménagement.
Il faut rappeler que le mouvement Yereolo a exigé dans une lettre adressée au représentant spécial des Nations Unies au Mali et chef de l'aménagement le retrait de la mission du territoire national avant le 22 septembre 2022.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Nous recevons à présent Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sékou.
Bonsoir Mousetou.
Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans le Grand Dialogue de ce soir?
Nouvelle constitution, un compromis est-il possible entre les acteurs politiques? C'est le sujet du Grand Dialogue de ce soir. Pour en parler, nous recevons Amadou Aya, membre du cadre d'échange des partis, regroupement de partis pour une transition réussie. Amidou Doumbia, membre du parti Yelema et Nouhoum Togo, président de l'USR, Union pour la sauvegarde de la République. Ils sont tous présents déjà dans nos locaux.
Merci Sékou. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute. Dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Les femmes africaines célèbrent ce dimanche 31 juillet la journée panafricaine de la femme. Cette édition 2022 est placée sous le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Ce 58e anniversaire intervient au moment où au Mali, certaines femmes sont victimes de violences conjugales. Madame Sy Kadiatou Sow, ancienne ministre et leader féminin, estime que le combat pour les revendications de la femme africaine doit être constant. Il ne s'agit pas de s'adonner à du folklore, poursuit-elle. Elle répond aux questions de Juliette Koulibaly dans ce numéro du magazine Toutes les femmes du Mali.
Même si souvent on n'est pas totalement satisfait des progrès réalisés parce qu'on attend toujours plus, chaque étape de la lutte apporte une amélioration dans les conditions de vie des femmes. Et c'était ça le sens du combat des pionnières. qui se sont mobilisés depuis 62, avant même la création de l'OUA. Moi, j'inscris cela toujours dans la logique de la constance. Il faut continuer le combat et se dire toujours qu'on peut obtenir mieux que ce qui est déjà un atout pour les femmes.
On assiste ces derniers temps à des violences conjugales qui dérivent même à des assassinats. Comment doit agir une organisation féminine de surcroît sous-régionale?
Ça va au-delà des organisations féminines. Hein. C'est un problème de société. Justement, il ne faut pas qu'on enferme cette question-là dans le combat des femmes seulement, qu'on limite cela au combat des organisations féminines. Ça concerne toute la société. Ce n'est pas possible qu'encore aujourd'hui, on accepte que des femmes soient tuées par notamment leurs conjoints. Ce n'est pas acceptable tout simplement. Donc, il faut une mobilisation de toute la société et demander à la fois aux décideurs, donc aux autorités de nos pays, être beaucoup plus sur ces questions-là, strict, sévère dans l'application des lois qui existent. Mais s'il faut, et je pense que dans notre cas, c'est ce que les organisations féminines demandent, c'est d'aller au-delà, de voir une législation qui puisse dissuader les auteurs de ces assassinats-là. Ça, c'est absolument indispensable. Mais il y a aussi, au niveau de la société, il y a tout le travail de sensibilisation qu'il faut faire.
Quant à la célébration de la journée panafricaine des femmes, vous avez parlé de constance dans la revendication des droits. Mais êtes-vous optimiste par rapport au respect des droits des femmes au Mali?
Si les pionnières là s'étaient découragées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y a le devoir des générations qui nous imposent de continuer le combat. Et je dis pas seulement les femmes. Il faut que les hommes comprennent que si une femme est épanouie, si une fille est épanouie, c'est la société elle-même qui est épanouie. C'est un problème de société encore une fois.
Mais que doit être fait pour que cette célébration ne se limite pas seulement qu'au folklore?
Il faut que tout le monde se mette dans cette logique-là, de faire le bilan et de se projeter. Je pense qu'on devrait plus se mobiliser ces journées-là pour nous faire entendre et pour faire progresser le combat des femmes.